L'an passé, nous avons parlé de la solitude, ici. Comme de nombreuses autres, mon intervention s'achevait sur l'espoir d'une communauté, accompagnant toujours la solitude qu'il appelle de ses voeux. Ce que je vais dire aujourd'hui prolongera d'une certaine manière ce que je disais il y a un an. Je tâcherai de souligner les liens les plus significatifs pour ceux qui m'auront entendu alors. Ceux qui ne l'ont pas fait, ça n'a aucune importance. Ce que je dis se tient en soi. Par communauté, j'entendrai d'abord la mise en commun de quelque chose qui organise, fût-ce temporairement, puisqu'il existe des communautés éphémères, comme la nôtre, la vie de ceux qui le partagent. Chaque communauté, au sens courant du terme maintenant, possède un quelque chose qui lui est propre. Autrement dit, elle ne possède pas tout, quelque chose, pas tout, mais ne se réduit pas à rien. Si elle existe sans être tout, d'autres communautés la côtoient potentiellement. L'existence d'une communauté, autrement dit, contient la possibilité d'une pluralité. Il en existe au moins une autre, celle de ceux qui ne font pas partie de la première et partagent cette extériorité. La communauté occupe donc l'espace séparant la solitude de l'individu, je n'en reparle pas, de l'humanité accomplie, qui en constitue les limites. Réalisation maximale de la communauté, l'humanité l'abolirait par saturation. Elle ne se trouve pas moins à l'horizon de toute communauté, et c'est la raison pour laquelle les communautés ne sauraient être tenues pour négligeables, malgré tout ce qu'elles peuvent avoir de partiel, de partial, d'irritant, voire de parfaitement ridicule. Je vous rappelle l'apologue de Schopenhauer, l'apologue sur les porcs épiques que j'avais cité l'an dernier. Parce qu'il n'est pas rien, un groupe quelconque, possédant quelque chose, est soumis constamment à la tentation de se prendre pour un, de se penser sur le modèle de l'individu, et d'étouffer ainsi en lui toutes les autres individualités. Le rapport au groupe ou à la communauté généralement requis des hommes, je l'appelle participation. L'homme est fréquemment sommé de prendre part à telle ou telle communauté. À peine le fait-il qu'il se transforme, aux yeux des autres, en partisan. Sa participation devient parti pris. À la communauté, on aime que les hommes se fondent, qu'ils communient. Le mot signifie d'abord avoir part à quelque chose. Avec elle, avec la communauté, on veut que les hommes fassent corps, particulièrement au moment difficile ou houleux. Injonction communautaire au mimétisme. Participant au groupe, fondu dans la masse, l'homme, d'abord seul, y élargirait ses propres limites, les dépasserait et recevrait dès lors, du fait même de l'abnégation de soi, un être nouveau, plus étendu, plus profond. La même prétention vaut pour une petite unité de combattants, soudés les uns aux autres dans un souci d'efficacité, celle dont Sartre parle dans la critique de la raison dialectique. Je fais un clin d'œil à ceux qui ont participé au séminaire. Comme pour la culture d'entreprise, si l'oxymore n'est pas trop criant, visant à promouvoir ex nihilo une identification à celle-ci. L'être de l'homme ne se densifie en réalité dans le groupe, dans la communauté, que de ressembler à celui des autres, que d'en revêtir les traits. L'inclusion provoque une dilution, contenue toutefois par le groupe, qui donne forme à la matière plastique des individus assemblés. Concrètement, que désigne alors la communauté ? Tout groupement, depuis celui de deux êtres, mettons un couple, jusqu'à celui de millions, mettons un peuple, une nation, ou, pour être faussement contemporain, l'ensemble de ceux qui participent à un même jeu sur Internet, communauté franchement inavouable pour le coup. Plus qu'un, moins que tous, La communauté est un groupe intermédiaire, une réalité de l'entre-deux. J'en examinerai quelques exemples, en laissant de côté le couple, communauté intime, non par désintérêt, mais par manque de temps. D'abord, qu'en est-il de ce quelque chose que la communauté possède et qui la fonde comme telle? Chez Aristote, ou selon Aristote, toute communauté, toute koinonia, repose sur un intérêt, terme que je vous invite à ne pas entendre péjorativement. Ceux qui appartiennent au groupe le font conjointement parce qu'ils visent un même but, un bien commun. Toute communauté est donc recherche d'un bien commun. Ce bien constitue sa fin. Fin, évidemment, au sens de but. Et la fin, pour Aristote, est l'essence d'une chose. Ce bien qu'une communauté recherche peut être réel ou apparent, peu importe à la définition. En ce sens, ce qui compte, c'est que la communauté accomplit un dépassement du solipsisme, de l'égoïsme ou de l'individualisme. Là où les intérêts particuliers constituent apparemment un fait de nature, la recherche du bien commun se situe au-delà de la nature, précisément par la position d'une fin. Pour autant, les communautés humaines ne sont pas indépendantes de toute naturalité. Elles naissent avant tout du besoin. Seul, l'homme ne peut en effet atteindre l'autarcie. Celle-ci est le résultat d'un concours. La communauté se veut donc remède à l'impuissance individuelle. Elle se manifeste d'abord en tant que communauté économique, fondée sur la volonté de satisfaire les besoins des hommes. Ce premier sens de la communauté ne doit pas être négligé. La communauté est le lieu d'un partage, l'espace au sein duquel se développent les échanges et avec eux, pour suivre à nouveau Aristote, des rapports juridiques entre les hommes, le souci, autrement dit, d'une certaine justice, ainsi que des liens d'entraide, c'est vrai, des trois communautés fondamentales que sont aux yeux d'Aristote la famille, la cité, enfin la famille, le village, pardon, et la cité. Si la famille vise très sommairement la survie et le village un certain confort d'existence, la cité est quant à elle la condition de ce qu'Aristote appelle l'autarkeia, donc l'autarcie, ou du bien vivre, du bonheur. Enfin, disons du bien vivre, c'est moins trompeur. C'est-à-dire, d'une certaine façon, d'un dépassement de l'économique par la satisfaction de tous les besoins. La communauté la plus haute, la communauté politique, la cité, atteindrait, selon Aristote, un au-delà de l'économie. Alors je retiens cette suggestion pour y revenir ultérieurement. Communauté économique, elle ne signifie pas nécessairement la communauté des biens ou des moyens de production, mais un espace au sein duquel la concorde naît de ce que chacun peut trouver de quoi assouvir ses intérêts propres. C'est par exemple la conception d'Adam Smith dans ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Je vais citer quelques petits passages rapidement. Smith fait de la division du travail une conséquence de la nature marchande de l'homme. Je le cite. Elle, donc c'est la division du travail, elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, d'un certain penchant naturel à tous les hommes, le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. Donc retenons que l'homme est essentiellement producteur, selon Smith, et que sa production aboutit toujours à un surplus. D'où la possibilité de l'échange. Je cite à nouveau. La certitude de pouvoir troquer tout le produit de son travail qui excède sa propre consommation contre un pareil surplus du travail des autres qui peut lui être nécessaire encourage chaque homme à s'adonner à une occupation particulière et à cultiver et perfectionner tout ce qu'il peut avoir de talent et d'intelligence pour cette espèce de travail. Le commerce est ici l'articulation fondamentale de toute communauté. Par son biais, chacun peut subsister et mieux cultiver ses propres compétences en contribuant à l'équilibre de l'ensemble. Le modèle de la communauté, vous l'avez compris, ici, c'est le marché. Je cite une dernière fois Adam Smith. La division du travail, une fois généralement établie, chaque homme ne produit plus par son travail que de quoi satisfaire une très petite partie de ses besoins. La plus grande partie ne peut être satisfaite que par l'échange du surplus de ce produit qui excède sa consommation contre un pareil surplus du travail des autres. Ainsi, chaque homme subsiste d'échange et devient une espèce de marchand. Et la société elle-même est proprement une société commerciale. Donc, la socialité est d'abord et avant tout, dans cet horizon-là, commerce. Celui-ci satisfait l'intérêt de tous quand chacun y recherche le sien propre. C'est la fameuse image de la main invisible ordonnant le social par-delà les volontés des hommes. L'espace social forme alors un tout prospère. Notre situation économique actuelle, celle d'un effondrement du marché subi de plein fouet par de nombreux hommes, n'invalide pas la description, elle en est une conséquence. Je reprends rapidement pour nouer la chose. La production est naturelle et naturellement excessive. Elle rend possible les échanges. Ceux-ci produisent un ordre dont le nom est indifféremment marché, société ou communauté. La communauté économique se caractérise, dans le modèle smithien de Smith, par sa prospérité qui explique sa longévité. Elle pousse en effet la communauté à persévérer dans son être, comme le conatus spinoziste. Au sens propre, elle substitue l'être au dépassement. Elle fige la communauté qui devient bourgeoise, c'est-à-dire, c'est la définition qu'en donne Lévinas, installée. L'opulence et son corollaire, l'indigence, présents en proportion variable, y font oublier la fin de la communauté qui ne se satisfait plus d'être satisfaite, mais qui veut être. Ce fut le propre de nos sociétés privilégiées pendant un temps relativement long, jusqu'à ce que l'indigence explose au cœur de notre vieille Europe, communauté économique et bourgeoise en ce sens. Celle-ci put croire en son succès sous la forme de sa progressive universalisation, dont l'un des noms, usurpé, cela va sans dire, fut celui de civilisation. Marx en souligna l'imposture, je cite le manifeste. Par suite du perfectionnement rapide de tous les instruments de production et grâce à l'amélioration incessante des communications, c'était avant Internet et les SMS, à l'amélioration incessante des communications, la bourgeoisie précipite dans la civilisation jusqu'aux nations les plus barbares. Le bas prix de ses marchandises et la grosse artillerie avec laquelle elle démolit les murailles de Chine et obtient la capitulation des barbares les plus opiniâtrement xénophobes. Elle contraint toutes les nations, sous peine de courir à leur perte, à adopter le mode de production bourgeois. Elle les contraint d'importer chez elles ce qui s'appelle la civilisation. Autrement dit, elle en fait des nations de bourgeois. En un mot, elle crée un monde à son image. C'est la prose bien connue de Marx. Bon, renversement. Renversement. L'économie, dont la tâche noble était de rendre le monde habitable, afin que les hommes puissent se libérer autant que possible de la nécessité, se rêve en créatrice du monde. La bourgeoisie fit ce rêve d'un monde à son image. Elle accoucha de notre monde actuel. Alors, de ce qui précède, je vais tirer un certain nombre de suggestions simples, mais qui esquissent un programme assez exigeant, suggestions qui orienteront ma pensée de la communauté. Il convient en premier lieu de dissocier communauté et communion, de concevoir un espace commun qui ne repose pas sur le mimétisme ni ne l'implique, de penser la communauté à partir de l'essentiel solitude, de sa figure abrahamique dessinée l'an dernier ici même, de la penser si possible comme une communauté d'étrangers ou d'uniques. Ensuite, il faut renoncer à l'idée que la prospérité serait le moteur de la communauté, afin d'éviter la sclérose, la prise de la communauté en être commun, son institutionnalisation, et les membres du séminaire s'y retrouveront. S'efforcer donc de penser une communauté qui ne s'institue pas, une communauté qui ne soit pas économique, mais ne se fasse pas au mépris de l'économie. Alors pour développer ces suggestions, je vais m'appuyer, comme l'a dit Dominique tout à l'heure, sur Lévinas d'abord, sur Sartre ensuite, pour finir par quelques propositions personnelles. La philosophie a d'abord pensé la communauté dans l'espace politique. C'est vrai chez Aristote, c'est vrai chez Platon. L'espace politique où elle implique, la communauté, l'existence de l'État, garant de sa consistance et de sa pérennité. Au cours des années 1953 et 1954, Lévinas s'est penché dans deux articles très importants sur cette conception philosophique de la communauté. Alors, je vais résumer les thèses essentielles à mes yeux de ces deux articles. Dans le premier, Liberté et commandement, donc 1953, Lévinas interroge la possibilité d'un être ensemble qui ne sacrifierait pas la liberté. L'article commence par examiner la contradiction apparente entre les deux notions qui constituent son titre. Je vous cite la première phrase de l'article. « Commander, c'est agir sur une volonté. » Or, la volonté, fondamentalement libre, se refuse précisément à subir une action. Elle semble donc, la volonté, rétive par nature au commandement, sans lequel aucune communauté politique n'est possible. Il fallut donc, et c'est là l'apport de la philosophie grecque, aux yeux de Lévinas, et il pense évidemment essentiellement à la République de Platon ici, il fallut donc concevoir le commandement non plus comme une action imposée de l'extérieur à la volonté qui devrait de ce fait la subir, mais comme anticipation d'une volonté s'ignorant encore elle-même, que j'appellerais désir. Celui qui commande vraiment, selon Platon, n'a d'autre souci que le bien de ceux qu'il commande. Je sais, c'est difficile à concevoir aujourd'hui, mais entendons au moins la proposition théorique. Donc, je répète, celui qui commande vraiment n'a d'autre souci que le bien de ceux qu'il commande. Son rôle de commandant est de servir leur liberté. Et pour ce faire, il doit acquérir la connaissance la plus approfondie de leur nature intime, afin d'exprimer extérieurement ce qui se trame dans l'intériorité encore muette. L'accord du commandement et de la liberté, nécessaire à une existence collective, qui ne se réduise pas à la domination des faibles par le fort, ne saurait exister, en d'autres termes, hors l'espace de la raison. Autrement dit, la politique ne saurait être que rationnel. C'est Platon qui parle. Platon, lui, parle Lévinas. Et la rationalité, en tant qu'elle ouvre un espace commun d'intellection, que politique. Par-delà la satisfaction des besoins, la communauté dessine l'espace d'un partage de la raison. Hélas, la raison ne s'impose pas sans heurts. Si tout homme la trouve au moins potentiellement en lui, force est de constater qu'elle côtoie toujours l'animalité qui s'y trouve aussi. En nous déjà, la raison est menacée par des pulsions qui lui sont contraires. Pour cette raison, son partage avec les autres hommes n'est pas aisé. Je cite Lévinas. La pensée libre n'est pas simplement conscience d'une tyrannie s'exerçant sur notre animalité. Elle n'est pas simple spectatrice de cette pauvre animalité agitée par la peur et l'amour. La raison ne reconnaît pas simplement l'animalité en nous. Elle en est comme affectée par le dedans. Je fais une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse. Cela signifie donc que l'homme n'est pas un mixte dont les éléments resteraient hétérogènes. Il est au sens fort un mélange. C'est-à-dire qu'en lui, des tendances contradictoires s'entremêlent. Je reprends la citation de Lévinas. La menace du tyran n'est pas simplement connue par la raison, elle émeut la raison, si paradoxaux que puissent paraître ces termes, une raison émue. Le despotisme des sens constitue la source de la tyrannie. Fin de la citation. Donc, la communauté politique, qui vise le partage de la raison, se fait au risque de la tyrannie, caricature de la communauté véritable, caricature dans laquelle la participation est maximale et le peuple un, autant qu'il est possible, au prix cependant de sa liberté. La résistance du désir, relevant de l'animalité, à la volonté rationnelle, se trouve à l'origine d'un tel risque. Et cette résistance n'est pas moins grande au niveau collectif qu'au niveau individuel. La cité, qui accomplit la vie politique, est constamment menacée par sa caricature, au point que cela constitue véritablement l'obsession platonicienne, l'obsession de la tyrannie. Dans la communauté comme dans l'âme singulière, la raison est affectée par le despotisme des désirs multiples et changeants, de la foule bariolée par ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la demande sociale, par ce que Socrate appelait le gros animal. Loin que la cité puisse s'installer dans le confort et la certitude de sa propre existence, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure en parlant de communauté économique, la prospérité, elle est une communauté sur le qui-vive, toujours en question, frôlant sans cesse la dislocation. Mais la communauté veut être. Dès lors, la raison qui la fait être se doit de parer à sa propre fragilité. Elle doit donc s'instituer. Je cite Lévinas à nouveau, commentant Platon toujours. Ce qui reste cependant libre, c'est le pouvoir de prévoir sa propre déchéance et de se prémunir contre elle. La liberté consiste à instituer hors de soi un ordre de raison, à confier le raisonnable à l'écrit, à recourir à une institution. La liberté, dans sa crainte de la tyrannie, aboutit à l'institution, à un engagement de la liberté au nom de la liberté, à un État. Bon, donc le processus est simple. La raison s'extériorise sous forme de loi écrite. Ce faisant, elle se met à l'abri. Elle se sépare de son ombre. L'écriture constitue, pour la raison, une sorte d'écrin, comme l'institution pour la liberté. Indissociable de l'État, la loi écrite érige la raison en norme et rend théoriquement possible son partage par tous. Et c'est pourquoi l'État constitue la forme la plus accomplie de la rationalité politique. Protégeant la raison, il fonde la paix en soustrayant les relations interindividuelles à la violence naturelle. Il est donc, l'État, la solution apportée par la philosophie politique, classique du moins, au problème de l'articulation des libertés, ce qui est une nouvelle définition de la communauté. Mais la raison, ainsi isolée, subit en réalité une véritable altération. Dans sa volonté de la ramener à sa pureté, pureté au sens chimique du terme, l'État la transforme profondément. La raison devient raison d'État. Elle que chacun trouvait en lui s'impose désormais comme une loi extérieure. Si l'extériorité du chef authentique, chez Platon, parlait en quelque sorte depuis l'intérieur du sujet, dont elle apercevait la volonté par-delà le désir, l'extériorité de la loi se donne comme une langue étrangère, que personne ne parle, mais qui n'en prétend pas moins valoir pour tous. Échec. Échec de la communauté politique, formulé radicalement par Max Stirner, formule très célèbre, « Tout État est une tyrannie ». Ce qui est vrai de façon évidente, ou presque évidente à nos yeux, du système monarchique, dans lequel la volonté d'un vaut pour tous parce qu'elle constitue ce tous. Je rappelle que Hobbes, par exemple, dans le De Civitate Dei, disait « Le roi est le peuple ». Cette vérité, tout État est une tyrannie, ne s'applique pas moins, selon Stirner, dans une république. Je le cite. En supposant même que tout individu pris isolément dans le peuple eût exprimé la même volonté et que par suite la loi fût l'expression parfaite de la volonté générale, c'est entre guillemets, il vise Rousseau bien sûr, la chose resterait au même point. Ne serais-je pas aujourd'hui et plus tard lié à ma volonté d'hier ? Ma volonté, dans ce cas, serait cristallisée, stabilité maudite. Je suis dans l'état, au meilleur des cas, je pourrais aussi bien dire au pire, un valet de moi-même. L'institution, c'est la fin de la citation, c'est moi qui parle, l'institution, c'est ma volonté hypostasiée se retournant contre moi. Lévinas ne partage évidemment pas l'individualisme à outrance, ni l'anarchisme radical de Stirner. Il n'en voit pas moins la tendance présente en toute communauté politique à sacrifier le sujet singulier au collectif. Incarnant la raison, l'État tend à en figer le caractère vivant. La rationalité s'y fait bureaucratie et l'État devient empire, en se considérant lui-même comme sa propre fin. Lui qui ne devait être que le moyen du partage de la raison. Au lieu de ce partage, s'impose l'ordre établi, salutaire peut-être, mais s'apparentant toujours davantage à une pure et simple domination. L'ordre fait oublier la raison. L'amour de l'ordre politique accompagne la perte du souci d'un partage de la raison. Telle est la statolatrie, l'idolâtrie de l'État, donc la statolatrie. L'amour de l'ordre tenant lieu de raison. L'universalité de l'ordre imposé par l'Empire, Saint-Jean, celle de la raison. D'où la question que pose Lévinas. Je le cite. N'y a-t-il d'autre universalité que celle de l'État et de liberté autre qu'objective? Réflexion difficile, car elles doivent mener plus loin qu'on ne le croit. Bien au-delà de Marx et de Hegel, elles amènent peut-être à mettre en question les bases les plus profondes de la métaphysique occidentale. Alors, je signale entre parenthèses que le programme annoncé ici par Lévinas, comme souvent, est fort alléchant, qui n'est hélas pas toujours mené à bien. Je referme cette parenthèse. Hegel illustre magistralement la substitution que je viens de décrire, donc je ne résiste pas au plaisir de vous citer un de ces paragraphes, l'un des paragraphes des principes de la philosophie du droit, paragraphe 258. Pour être précis, il écrit la chose suivante. Alors, vous m'excuserez pour le style, c'est Hegel. Non, c'est magnifique, j'adore ça, mais c'est difficile à entendre. Il faut l'avoir sous les yeux. L'État, comme réalité en acte de la volonté substantielle, réalité qu'elle reçoit dans la conscience de soi universalisée, est le rationnel en soi et pour soi. Cette unité substantielle est un but propre absolu, immobile. On a envie de dire une idole, mais bon, on ne va pas le dire, immobile, dans lequel la liberté obtient sa valeur suprême, et ainsi ce but final a un droit souverain vis-à-vis des individus, dont le plus haut devoir est d'être membre de l'État. Voilà, Hegel. Donc l'État est le tout. Il épuise le champ de la raison et n'a d'autre fin que sa propre préservation. Déchéance du politique. Qui implique de reposer le problème de la communauté à neuf, autrement que ne le fit la philosophie politique classique. Et Lévinas s'y emploie dans le deuxième article que je vous avais annoncé, qui s'intitule « Le moi et la totalité », qui parut donc en 1954, un an après celui dont je viens de parler. Alors, c'est un texte plus aventureux que le précédent, plus expérimental, si on peut dire. Parce que Lévinas essaye d'y créer des catégories nouvelles pour penser le rapport du sujet à la communauté. Et nombre des intuitions qu'on trouve dans ce texte ne seront pas reprises plus tard. Du moins, pas sans avoir été très profondément retravaillées. Mais à mes yeux, c'est là tout son intérêt. Hein ? C'est une pensée qui est en train de se faire. Lévinas part de la condition paradoxale de l'homme. Pris entre, je le cite, une position dans la totalité et une réserve à son égard. Simultanément, en même temps. Hein, position dans la totalité et réserve à son égard. Donc participation, ce que j'ai appelé la participation tout à l'heure, et séparation en même temps. Position dans la totalité en tant qu'il vit, qu'il consomme les nourritures terrestres et jouit. Séparation en tant qu'il pense et ne se contente dès lors pas de vivre. Installé dans l'intériorité du monde dont il vit, et qu'il ne peut de ce fait considérer comme radicalement extérieur à lui, le moi entre cependant, sitôt qu'il pense, en relation avec une extériorité qui lui est impossible d'assumer, et qui de ce fait n'existe plus en tant que totalité. Inscrit par sa vie dans la totalité, il s'en excepte par sa pensée. Cette situation d'entre-deux, l'homme comme fragment du tout et étranger au tout, Lévinas propose de l'appeler innocence. elle n'a rien de naturel, cette innocence. Car c'est l'absorption dans le tout qui serait naturelle. Un peu sur le modèle de ce que décrivait Lévi-Brulle dans La mentalité primitive, si on se souvient de ce texte. Cette innocence relève au sens propre, dit Lévinas, du miracle. Alors, je vous rassure tout de suite, s'il faut, ça ne signifie pas qu'elle soit surnaturelle. Le miracle ne signifie pas, en effet, pour Lévinas, comme le croyait Spinoza, la dérogation aux lois de la nature. Mais le fait qu'une extériorité non assumée, que Lévinas appelle l'infini, se donne à la conscience, au moi, en la débordant sans la détruire. Que l'homme puisse ne plus se considérer comme un fragment du tout, mais comme extérieur à lui et simultanément en relation avec lui, tel est le miracle. Miracle qui fait de l'homme un étranger. Il est étranger au monde où il réside cependant. Étranger, résident. La totalité, écrit Lévinas, ne peut se constituer que par l'injustice, car elle doit détruire l'innocence de l'homme, son étrangeté, pour l'embrasser dans le champ de la raison impersonnelle. La justice implique à l'inverse d'empêcher la totalisation, sans revenir au solipsisme, à la solitude du sujet. Parce que le moi ne saurait être juste seul. Fracturer la totalité, c'est extraire la relation interhumaine de la participation. Mais ce n'est pas renoncer à cette relation. Alors Lévinas propose d'appeler société la totalité détotalisée qu'inaugure la justice. Il s'agit d'une communauté d'un type particulier, échappant aux catégories mathématiques comme aux métaphores inspirées de la physique, si promptement mobilisées lorsqu'on cherche à penser la communauté des hommes. On ne saurait en effet penser la société telle que Lévinas essaye de la penser, ni sur le mode de la fusion, ni sur celui de l'addition ou de l'agrégation. Elle résulte, cette société, d'une addition impuissante à faire nombre. Disons, une addition innombrante. Je cite Lévinas. La totalité où se situe un être pensant n'est pas une addition pure et simple d'êtres, mais l'addition d'êtres qui ne font pas nombre les uns avec les autres. C'est toute l'originalité de la société. La société, c'est moi qui parle maintenant, la société, c'est donc une communauté d'êtres qui, additionnés, ne se fondent pas en un. Des êtres dont l'association ne prend pas la forme d'un corps collectif, des êtres qui font société en restant étrangers, ni identiques, ni interchangeables. Alors, pour développer son programme de pensée, Lévinas suit deux pistes. La première, c'est celle de l'activité économique, qu'il abandonne assez rapidement, et je viens d'en parler, donc je ne vais pas y revenir. Je signale simplement qu'il la développe très substantiellement ensuite, plus tard, dans Totalité infinie, puisque c'est toute la deuxième section de Totalité infinie. Et la seconde piste qui m'intéresse est esquissée dès 1948, c'est-à-dire dans la période de production intellectuelle la plus intense chez Lévinas, hein, c'est juste les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale sont des années fondamentales chez Lévinas. Alors, elle est esquissée dès 1948 dans une conférence donnée au Collège philosophique de Genval. Je vous cite, c'est une phrase très courte. Au fond de toutes les relations sociales se trouve celle qui rattache maîtres et élèves, l'enseignement. L'essence du langage est enseignement. Donc, le fondement de la communauté n'est plus économique, ni politique, mais relève, mettons, de l'acquisition d'un savoir. Cette piste est reprise dans « Liberté et commandement » auquel je reviens très brièvement. Lévinas y soulignait combien l'obéissance à la raison impersonnelle ne va pas de soi. Il montrait que le partage qu'elle prétend rendre possible implique en réalité une condition plus essentielle encore, que déjà les hommes fussent, sinon doués de raison, du moins susceptibles de raison. Si l'État, autrement dit, est la condition de la liberté, il est lui-même soumis à condition, contrairement à ce qu'affirmait Hegel. Les individus ne sauraient entrer dans le jeu rationnel qu'à être prédisposés à la raison. Et cette prédisposition relève de l'enseignement, lequel rendrait possible une communauté qui ne se prenne pas pour une totalité. Je complique un peu les choses. Dans Totalité et Infini, Lévinas propose d'appeler religion cette communauté. Alors, religion dans un sens un petit peu particulier, j'explique. Religion est opposée à totalisation, par Lévinas. Il ne faut donc pas l'entendre comme une institution, ni comme un ensemble de croyances partagées, ni évidemment comme un système dogmatique. Comme à son habitude, Lévinas joue avec la langue française et cherche à donner un sens actif au terme. Donc, de même que la totalisation désigne l'acte qui, d'une multitude éparse, fait un tout, totalisation, de même la religion serait l'acte par lequel les uniques entrent en relation sans se totaliser et forment une communauté n'impliquant aucune communion, mais un enseignement commun. Bon, n'importe, si vous voulez, le terme choisi par Lévinas, religion, à mon sens, sujet à méprise. Je retiens l'idée d'une communauté de savoir et d'enseignement pour y revenir dans ma conclusion. Et je quitte Lévinas pour parler brièvement de Sartre. Parce que Sartre, lui aussi, s'est heurté au problème de la communauté ou du groupe. Dans son grand essai d'ontologie phénoménologique, c'est le sous-titre de l'être et le néant, il a cherché à dépasser le solipsisme de la conscience en soulignant l'importance de la dimension du pour autrui. Cependant, sa description des relations concrètes avec autrui montre à quel point l'être ensemble restait problématique pour lui, profondément problématique. Sartre distinguait dans l'être et le néant le nous-objet, constitué par le regard d'un tiers, et le nous-sujet, qui selon lui relève de la simple psychologie. Sartre affirmait que le nous, donc la communauté, fait toujours l'objet d'une expérience dérivée, et qu'elle se ramène, ou qu'il se ramène, le nous, toujours, au fond, à la relation fondamentale avec autrui. En langage plus clair, si c'est possible, toute communauté, dans l'être et le néant, est inessentielle. Et dans son second grand ouvrage philosophique, La critique de la raison dialectique, Sartre a pris à bras-le-corps ce problème, s'efforçant d'élaborer une théorie des ensembles pratiques. C'est le sous-titre de la critique. Alors, je ne vais pas reconstituer tout le mouvement de pensée qui est très dense, très complexe, mais je vais résumer ce qui nous intéresse ici, ou ce qui m'intéresse pour penser la communauté. Les premiers rassemblements humains, selon Sartre, sont extéro-conditionnés. Ce qui veut dire qu'ils s'opèrent sous la pression de circonstances extérieures. Un exemple, c'est l'exemple de Sartre. Soit un groupement de personnes sur la place Saint-Germain qui attendent l'autobus à la station devant l'église. Voilà, une communauté humaine, une collectivité humaine. Ce rassemblement objectif ne constitue cependant pas un groupe, mais ce que Sartre appelle un collectif sériel. Bien que coprésents en un même lieu, les hommes qu'ils constituent n'ont en réalité rien de positivement commun. Leur rapport reste de simple contiguïté. Ils peuvent bien constituer, à mes yeux, moi qui suis assis à la terrasse du café où Sartre écrivait, un ensemble, et n'en ont aucunement conscience. Leur être ensemble est purement impersonnel. Leur unique relation est celle que leur impose la structure des transports en commun de Paris, liée à la nécessité de se déplacer pour se rendre au travail ou ailleurs. C'est donc en quelque sorte, si vous voulez, l'autobus. et tout ce qu'il signifie comme cristallisation d'un état de la société française qui confère de l'extérieur un être à cet ensemble. Mais cette extériorité trouve évidemment un écho intérieur chez ces personnes. Écho que Sartre appelle l'intérêt commun. Je cite un passage de la critique. Ce sont tous ou presque des employés, des usagers de la ligne qui connaissent l'horaire des passages d'autobus et leur fréquence, qui en conséquence attendent la même voiture, l'autobus de 7h49. Cet objet, en tant qu'ils sont dépendants de lui, est leur intérêt présent. Mais cet intérêt présent, puisqu'ils habitent tous le quartier, renvoie à des structures plus amples et plus profondes de leur intérêt général. Amélioration des transports en commun, blocage des tarifs, etc. Dans la mesure toutefois où l'autobus désigne les usagers présents, il les constitue dans leur interchangeabilité. Chacun, en effet, est produit par l'ensemble social comme uni à ses voisins en tant qu'il leur est rigoureusement identique. À ce moment de l'expérience, le groupe a son être unique hors de lui dans un objet à venir, l'autobus qu'ils attendent, et chaque individu, en tant que déterminé par l'intérêt commun, ne se différencie plus de chaque autre que par la simple matérialité de l'organisme. Tel est le collectif, ce que Sartre appelle le collectif. Communauté si l'on veut, mais communauté de fait, ne répondant à aucune volonté, à aucun désir de société. C'est cependant sur la base d'un tel collectif que peut naître le groupe véritable, que Sartre appelle groupe en fusion. Nous sommes... Nous avons quitté la place Saint-Germain, nous sommes le 14 juillet 1789. Le peuple de Paris est dans la rue, dans le faubourg Saint-Antoine, assemblé d'abord passivement, réuni par les circonstances extérieures. La rumeur de l'imminence de l'attaque du faubourg Saint-Antoine par la troupe, les mouvements effectifs de la dite troupe, les tensions dans d'autres quartiers, dont la rumeur parvient aux oreilles des hommes assemblés. L'accumulation de ces circonstances produit la colère, laquelle produit la fusion. Le collectif devient groupe par l'acte de s'armer, témoignant de la reprise à son compte de ce qui n'existait jusqu'alors que du fait de l'autre. C'est ce que Sartre nomme, d'un terme qu'il emprunte à Malraux, l'apocalypse. On doit donc distinguer les collectifs relevant du pur fait des communautés qui se font. Les premières sont les conditions des secondes qui en sont l'accomplissement. Pas de communauté véritable, autrement dit, qui fasse fi des ensembles existants, pas d'ensembles existants qui puissent se satisfaire d'exister. Le groupe naît du collectif. Et si le collectif ne peut se constituer que sous l'œil d'un tiers, il faut se demander ce que devient le tiers dans le groupe en fusion. Sartre dit qu'il est comme intériorisé. Le groupe, naissant dans la chaleur de l'apocalypse, acquiert une certaine unité personnelle, c'est l'expression de Sartre, unité personnelle. Chacun s'éprouve lui-même dans l'action menée en commun, comme, et c'est à nouveau une expression de Sartre, incarnation singulière de la personne collective. Le groupe se caractérise comme négation de l'altérité sérielle. Je cite Sartre. Dans la relation sérielle, en effet, l'unité comme raison de la série est toujours ailleurs. Dans l'Apocalypse, bien que la sérialité demeure au moins comme processus en voie de liquidation, l'unité synthétique est toujours ici. En chaque lieu de la ville, à chaque moment, dans chaque processus partiel, la partie se joue tout entière et le mouvement de la ville y trouve son achèvement et sa signification. Donc, l'altérité disparaît au sein du groupe. Le tiers, nécessaire à sa totalisation, parce qu'une totalité ne peut apparaître comme telle que depuis un point d'extériorité, est intégré au groupe par l'action duquel chacun occupe la position de tiers par rapport à tous les autres. La tertialité est tournante, et de ce fait, par un mouvement centripète interne, le groupe produit sa propre totalisation. Je cite à nouveau Sartre. Le rapport de tiers à tiers n'a plus rien à voir avec l'altérité. Il s'agit du groupe en fusion, hein. Le rapport de tiers à tiers n'a plus rien à voir avec l'altérité. Du fait que le groupe se fait milieu pratique de ce rapport, il s'agit d'une relation humaine que nous appellerons réciprocité médiée. Le manifestant, par exemple, qui se rend à une manifestation interdite, l'exemple est encore de Sartre, et qui voit affluer les autres vers le lieu de rassemblement, fait l'expérience d'une telle réciprocité. Ce que chaque arrivant, complétant la foule des manifestants, est pour lui, il l'est lui-même pour chaque autre. La réciprocité se donne dans l'action elle-même. Pour Sartre, vous l'aurez compris, la communauté par excellence est communauté d'action. Si le collectif se caractérise par la passivité, c'est la praxis collective qui constitue le groupe comme tel. À la communauté de situation, ou pire, d'être, doit se substituer celle de l'agir. Dès lors, le problème de Sartre sera celui du mouvement perpétuel. Car la fraternité, goûtée dans l'expérience de l'apocalypse et de la fusion, menace de disparaître sitôt que les circonstances changent et que l'action ne s'impose plus. Il faudra donc que le groupe produise, sous peine de se disloquer, sa propre pression. C'est le rôle du serment, censé assurer la survie du groupe. Là où la prospérité assurait la continuité de la communauté économique, la fidélité au serment est censée produire celle du groupe en fusion. Ce qui produisait la colère de la foule assemblée, c'était la peur. Il faut donc que le groupe, je cite Sartre, substitue une peur réelle, produite du groupe lui-même, à la peur externe qui s'éloigne, soit, c'est moi qui parle, la terreur. Jurer, dit Sartre, donc faire ce serment qui est censé prolonger l'existence du groupe en fusion, jurer, c'est dire en tant qu'individu commun, je réclame qu'on me tue si je fais sécession. Le serment implique donc la reconnaissance du droit absolu de tous sur chacun. Grâce à lui, les hommes continuent d'être frères en vertu d'une, c'est l'expression de Sartre que je cite, d'une sollicitude mortelle qui vaut renaissance. Nous sommes frères, écrit Sartre, nous sommes frères en tant qu'après l'acte créateur du serment, nous sommes nos propres fils, notre invention commune. C'est la fraternité fusionnelle qui ne repose ni sur une identité de nature, ni sur une ressemblance physique, puisque ces deux critères ne fondent absolument aucune fraternité. Et Sartre écrit avec ironie, c'est une formule qui revient dans plein de ses textes, dans plusieurs de ses textes, plusieurs fois, 3, 4, 5 fois. Pourquoi donc un petit pois dans une boîte de conserve serait-il dit le frère d'un autre petit pois de la même boîte ? Aucune raison. Donc, la fraternité ne repose pas sur l'identité de nature, ni sur une ressemblance physique, mais sur ce qu'il a institué, la peur intériorisée. Sartre encore. La possibilité que la fraternité avec tel ou tel se transforme brusquement par la trahison du frère en lynchage et en extermination est donnée dans la fraternité comme sa source et sa limite. Donc la terreur constitue, et vous m'excuserez pour la prolifération des formules sartriennes, enfin j'aime qu'on les entende, elles sont parlantes et frappantes. La terreur constitue dès lors, écrit Sartre, le lien pratique d'amour entre les lyncheurs. Bref, là où nous cherchons la communauté, où nous cherchons à penser la communauté, nous aboutissons avec Sartre à une fraternité dans la mort. Bon, la positivité du groupe est évidemment ratée, manquée. Ah, ce qui ne veut pas dire que les descriptions sartriennes n'aient aucune valeur historique, parce que dans l'histoire, ça se passe. Alors, je signale que Sartre est revenu plus tard sur ses propres descriptions dans son dialogue avec Béni Lévy. Très vite. Celui-ci, Béni Lévy, s'efforça de sauver l'intuition insurrectionnelle de la fraternité de sa déchéance en terreur. Pour ce faire, il dut lire Sartre en donnant à certaines de ses analyses, notamment sur l'Apocalypse, un développement plus ample, en tout cas en les accentuant différemment. Alors, je vais juste citer un petit passage d'un article de Benny Lévy, enfin, c'était signé à l'époque Pierre Victor, qui s'appelle Apocalypse, justement. Il dit la chose suivante. La vérité de feu de l'Apocalypse, contrairement à ce que dit Sartre, tient précisément à ce fait de parler sans se connaître. L'Apocalypse est lieu de parole, brûlant comme une effusion de lave. La phrase circule de bouche en bouche. Chaque tiers, interpellé par l'un, renvoie l'interpellation à l'autre. La pesanteur se fait grâce, de proche en proche. Dans la fièvre, le miracle de la prose insurrectionnelle se produit. Le lointain devient mon prochain. Alors, je ne vais pas commenter la phrase, elle est complexe, mais ce que j'en retiens, c'est que la fraternité serait liée à la circulation de la parole, davantage qu'à l'action commune. Dans la critique de la raison dialectique, Sartre avait d'ailleurs lui-même souligné la socialité du langage. Je le cite, ce sera la dernière fois. « Nul doute que le langage ne soit en un sens une inerte totalité. Mais cette matérialité se trouve en même temps une totalisation organique et perpétuellement en cours. Sans doute, la parole sépare autant qu'elle unit. Seulement, cette incommunicabilité, dans la mesure où elle existe, ne peut avoir de sens que si elle se fonde sur une communication fondamentale, c'est-à-dire sur une reconnaissance réciproque et sur un projet permanent de communiquer. Donc, le langage, dit Sartre, suppose une communauté fondamentale que les grandes manifestations raniment dans un premier temps, sur la base de laquelle donc l'expérience de la fraternité peut être pensée à l'écart de la terreur. Et ce sera un des aspects du programme de pensée de Benny Lévy après la mort de Sartre. Je n'entre pas dans le détail, il faut lire les textes de Benny Lévy si l'on veut. Je retiens le lien de la communauté avec la parole. Et je quitte les auteurs pour maintenant essayer de formuler quelques propositions à partir des suggestions faites ici et là. Il existe des communautés de fait auxquelles nous appartenons. Familiale, économique, professionnelle, confessionnelle, nationale, politique, etc. On pourrait s'en contenter et se fondre en elle. On aurait de singularité que d'être né ici ou là, de vivre en tel ou tel lieu, de fréquenter telle ou telle personne, de saluer tel ou tel drapeau, si on le salue encore, ou telle couleur d'un club de football, de voter pour tel ou tel. En réalité, nulle subjectivation dans une telle existence. Nulle existence. Donc, si l'existence est celle d'un sujet, et si, comme on l'a vu l'an dernier avec Lévinas, personne ne saurait exister à ma place. Bon, on peut se fondre dans les communautés qui existent. On peut aussi regretter d'appartenir à de tels groupes, et tout faire pour s'en extraire. C'est une des figures de ce que j'ai appelé l'an dernier l'aristocratisme. Patiemment cultiver son infidélité, son originalité, s'accepter. On peut se vouloir seul et solitaire. Mais les communautés de fait, ou factuelles, celles qui existent, s'en moquent, qui finissent par nous rattraper. Sartre en a fait l'expérience. Durant la guerre, lui qui pensait vivre comme un atome, lié bien sûr à d'autres atomes, choisis avec soin, mais étranger à la configuration globale qui littéralement ne le concernait pas. Sartre se vit rappeler à l'ordre. La mobilisation le contraignit à reprendre sa copie et à admettre, c'est-à-dire à s'efforcer de penser, l'importance du collectif. Sur un mode plus sérieux, plus tragique, d'autres, qui croyaient avoir échappé à leur communauté par leur travail, leur réussite, leur amour et leur pratique du savoir, leur contribution à l'humanité ou leur participation active à l'effort national, firent l'expérience amère d'y être violemment ramenés. Les communautés de fait existent, mais elles ne se satisfont pas d'exister. Elles veulent être. Elles veulent persévérer dans leur être. Elles ont une irrépressible tendance à l'institutionnalisation, à la sclérose, raison pour laquelle on ne pourrait, et on ne saurait plutôt, se satisfaire d'en être. Il ne s'agit pourtant pas de revenir à une solitude d'autant plus superbe qu'elle ne vaut en réalité qu'à nos propres yeux. La communauté troque presque mécaniquement le désir de société qu'il a fait naître contre un désir d'être. Pour continuer, pour consister, elle oublie ce qui la fit être. S'il faut s'écarter d'elle, c'est à cause de cet oubli, pour retrouver l'intuition initiale, le désir de société. Il faut donc distinguer les communautés de fait, déjà faites, dans lesquelles nous sommes inscrits par notre condition, des communautés voulues, c'est-à-dire se faisant, hypothétiques, qui réuniraient des hommes, quelques-uns, en deçà de toute rigidification. Alors, pour finir, je vais essayer de dessiner, d'esquisser, la figure d'une telle communauté vivante. Si le sujet est étranger, que peut signifier une communauté d'étrangers? Ça ne va pas de soi. D'abord, par antithèse, le contraire d'une société prospère, bourgeoise. Il s'agit de se lier sans s'installer, d'exister en commun sans communier, sans taire l'étrangeté. Et je ne parle pas de l'étrangeté appelée à disparaître par assimilation totale au milieu ou par transformation du milieu. Pas de l'étrangeté accidentelle. Je parle de l'étrangeté essentielle qui se confond avec notre existence. Peut-on concevoir une société d'étrangers? L'étrangeté ne doit-elle pas céder la place à un moment donné à la fraternité? La politique, avant de redevenir gestion des avantages, s'est rêvée en matrice de la fraternité. Son échec oblige-t-il à tenir le projet pour insensé? Ou bien faut-il le repenser autrement? Une communauté qui échapperait au mimétisme ne peut se fonder, si la chose est possible, que sur l'unicité de chacun, sur une unicité partageable autrement que par mimétisme. Ce que j'appelle, en empruntant l'expression à Benny Lévy, une configuration d'unique. Alors, où réside cette unicité? Pas dans les opinions, volatiles, changeantes, sujettes à toutes les modes, à tous les on-dit. Pas dans l'idiosyncrasie, pas dans les goûts, pas dans la biographie, pas plus dans les engagements, mais dans la pensée. Dans la manière de comprendre, à nul autre pareil, dans ce qu'on pourrait appeler l'intelligence, si on entend le mot au sens actif du terme, l'acte d'intelligence. Unicité n'est pas originalité, pas exactement. L'originalité relève, me semble-t-il, davantage d'une manière d'être, d'un style. Elle concerne les atours, on le voit par exemple chez le dandy. Mais les atours n'échappent pas au mimétisme, même dans le meilleur des cas, lorsque l'originalité confine à l'unicité, touche au génie. En un sens, et sous certaines conditions, je répète, en un sens et sous certaines conditions, l'intelligence échappe au mimétisme. Imiter l'intelligent ne signifie pas devenir intelligent, mais faire semblant de l'être. Les plagiaires le savent. Qui, doués de sensibilité, souffrent de leur manque d'intelligence au point de croire trouver un salut dans celle des autres. Mais l'intelligence active, hélas, ne se copie pas. Elle s'effectue. Elle s'invente toujours à nouveau. Elle se renouvelle. La communauté, s'il en est une, doit se fonder sur cette puissance de renouvellement de la pensée. Elle doit prendre la forme d'une communauté d'études dans laquelle des sujets sont enjoints sans cesse par l'étude à l'intelligence. La vie de la pensée ne vise pas l'œuvre, mais des actes ou des événements de pensée, toujours à reprendre et à renouveler. La difficulté à satisfaire cette exigence radicale de nouveauté oblige à l'exposition sous la forme de l'enseignement ou du dialogue dans des communautés occasionnelles que j'appelle aujourd'hui communauté de traverse. Tout enseignement ne satisfait évidemment pas à la règle de l'exposition. L'enseignement universitaire, académique, ne cesse de s'y soustraire. Son autorité l'impose. Jamais il n'affronte d'autres pensées. Je tiens évidemment que seul l'enseignement qui s'y risque est digne de ce nom. Toute discussion ne satisfait pas non plus à la règle, puisque j'ai parlé de dialogue. Souvent, elle n'a pour but que d'y échapper. Le bavardage la protège. Jamais elle n'aboutit à un « nous ». Je tiens que seul le dialogue qui s'en approche est digne de ce nom, parce que celui-ci esquisse un espace de confrontation nécessaire au renouvellement. Nul enfermement ici, l'intelligence, acquise à quelques-uns, ne restera pas sans effet sur les communautés de fait, auxquelles elle redonnera, à n'en pas douter, un souffle de vie. Donc, parallèlement aux communautés principales existantes, qu'il est vain de prétendre abolir, il faut mettre en œuvre une communauté en acte, communauté de quelques-uns, tâchant d'actualiser pleinement leur singularité, leur intelligence, au moyen d'une étude commune. Communauté instable, fragile, comme la pensée, mais animée, c'est-à-dire douée d'âme, et animant potentiellement le reste des rapports sociaux. Quelques-uns donc, dessinant la figure d'une humanité en acte. Merci.